Mondial Sport sur RFI. Cédric De Oliveira, Philippe Zigras.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Mondial Sport. Beaucoup de choses au programme, on va parler d'athlétisme, des éliminatoires, du CHAN en football, du cyclisme avec le Tour de France. Mais on commence d'abord par ce drame dans un stade au Sénégal. Bonsoir Philippe Zigras.
Bonsoir.
Alors, il y a eu des affrontements entre supporters qui ont provoqué la mort de 8 personnes.
Oui, au stade Demba Diop de Dakar, à l'occasion de la finale de la Coupe de la Ligue entre le stade d'Mbour et l'US Wakam. Des affrontements, vous le disiez, entre supporters des deux clubs ont entraîné la chute d'un pan de mur, d'un pan de tribune, en majorité sur les supporters d'Mbour, nous a dit Babacar Fall, notre correspondant au Sénégal. Bilan provisoire, 8 morts, une femme et 7 hommes, et de nombreux blessés. Cela s'est passé en deuxième période. Le match a bien sûr été aussitôt interrompu. Alors c'est un drame qui a choqué mais qui n'a pas vraiment surpris ceux qui connaissent le très vétuste stade Demba Diop, une enceinte de 15 000 places assises construite en 1963 et qui attend depuis de très longues années d'être enfin mis aux normes actuelles, notamment au niveau de la sécurité.
Eh bien, merci Philippe, on reviendra évidemment sur RFI sur les suites de ce drame, notamment lors de nos prochaines éditions. Allez, on va aborder un sujet beaucoup plus joyeux, le cyclisme et la suite du feuilleton du Tour de France. Et pour parler de cette grande boucle, on rejoint tout de suite notre envoyé spécial Éric Chorin. Bonsoir Éric.
Bonsoir Cédric.
Alors Éric, c'était la 14e étape aujourd'hui entre Blagnac et Rodez. Rodez où c'est à nouveau un coureur de la Sunweb qui a brillé après Warren Barguil hier. C'est le puncher australien Michael Matthews qui s'est montré le plus costaud.
Ouais, Michael Matthews qui s'est imposé au terme de cette étape très très disputée. Il y a eu une très très longue échappée partie dès le kilomètre zéro de Blagnac en direction de Rodez avec, et oui, Thomas Voeckler, 38 ans, qui va arrêter le cyclisme après le Tour de France cette année, qui est parti le premier. Il a emmené avec lui le Belge Thomas de Gent et puis un autre Français, Maxime Bouet, ainsi que le rouleur hollandais Holland Stein qui s'est joint au Quatuor, parce qu'il y avait aussi un Suisse, un Hollandais, Tino Passen. Ils ont roulé tous les cinq près de 150 km ensemble. Ensuite, les deux hommes ont continué, c'est-à-dire les deux Thomas De Gendt et Thomas Voeckler. Thomas Voeckler qui a fini par lâcher, Thomas De Gendt, principal attaquant de ce tour depuis le début, même s'il n'est pas candidat au maillot jaune, qui a poursuivi son effort un long moment. Il a été repris à 12 km de l'arrivée. Et là, il y a eu des tentatives de sortie du peloton pour essayer d'aller gagner cette étape à Rodez. Mais, il y avait la côte de Saint-Pierre au final, tout au bout à l'arrivée à Rodez. Ça montait très dur, des pourcentages jusqu'à 10% en moyenne pour ce final. Et donc, on savait que les punchers, ceux qui sont capables de gravir ces côtes-là très très vite, allaient être de sortie. Et il y en a eu plusieurs, en l'occurrence Philippe Gilbert, le Belge, qui est sorti le premier. Il a été dépassé ensuite par Greg Van Avermaet qui avait remporté la même étape à Rodez il y a 2 ans. Et puis ensuite, c'est Michael Matthews, l'Australien de la Sunweb, qui a surgi et qui a distancé les autres adversaires. Il a même levé les bras bien avant la ligne d'arrivée. Il s'est imposé, Michael Matthews, sur la ligne ici à Rodez. Au lendemain de la victoire de son coéquipier Warren Barguil, le Français porteur du maillot à pois, le 14 juillet. Du coup, c'est une deuxième victoire pour cette équipe de la Sunweb, une équipe qui a beaucoup travaillé aujourd'hui. Warren Barguil un peu moins, il était un peu fatigué par ses efforts d'hier. On va l'entendre, Warren Barguil, après la très belle victoire de son coéquipier australien Michael Matthews.
Ouais, ça va bien, ouais, ça a souri. Hier, les gars, ils avaient pour objectif, c'était de se conserver au maximum. Et c'est ce qu'ils ont fait, parce qu'on savait que ça allait être une journée dure. Il y a 2 ans, on avait contrôlé aussi l'étape là pour John. Donc on savait que la tâche allait être dure. Et aujourd'hui, les gars, ils ont fait un super boulot pour Michael. C'était vraiment, vraiment joli à voir, tout le monde s'est employé. Il n'y a pas un gars de l'équipe qui est resté dans les roues aujourd'hui et qui n'a rien fait. Enfin, ouais, tout le monde s'est employé et c'est une belle victoire collective.
Aujourd'hui, c'était comment? Parce que quand on gagne une étape le 14 juillet, il y a un engouement. Vous avez senti quelque chose pour les petits pois?
Ouais, j'ai vraiment senti beaucoup de supporters au bord de la route. Et ça m'a fait vraiment très très plaisir. Il faut que ça continue comme ça jusque Paris et ce serait génial.
Vous les entendez?
Oui, je les entends. Et puis je vois que je commence à avoir des pancartes un peu partout, allez Warren ou allez Wawa, ça me fait super plaisir.
Voilà, Warren Barguil et Michael Matthews qui ne sont pas les seuls à se satisfaire de cette 14e étape. L'autre grand gagnant de la journée, c'est Chris Froome qui a profité du final pour reprendre le maillot jaune à Fabio Aru. Un petit peu à la surprise générale, Eric.
Ah ouais, ouais, c'est la grosse, grosse surprise, un peu comme ça avait été le cas finalement il y a deux jours à Peyragudes quand Chris Froome avait laissé son maillot à Fabio Aru sur les, quoi, 200 derniers mètres. Il avait calé dans la dernière ascension et Fabio Aru s'était emparé du maillot jaune pour seulement 6 secondes grâce au jeu et des bonifications. Et ben, ça a été l'inverse un peu ce soir. Fabio Aru traînait en queue de peloton. Il y avait eu des bordures, beaucoup de vent durant cette étape. Du coup, il traînait à la fin du peloton et ça, les Sky, l'équipe du maillot jaune, Chris Froome, et bien sûr, ils s'en sont rendus compte. Ils ont roulé très, 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 très fort. Et à l'arrivée, surprise, il en était presque le premier surpris. Christopher Froome a récupéré son maillot jaune 2 jours seulement après l'avoir perdu. On va l'entendre, Christopher Froome.
Oui, c'est un gros surpris pour nous que j'avais repris le maillot. Je n'avais pas pensé qu'on peut trouver les différences de 20-25 secondes entre les gros favoris sur une étape comme ça aujourd'hui.
Est-ce que maintenant le but c'est de le garder jusqu'à Paris ?
Oui, bien sûr. Bien sûr, ça c'est l'objectif, mais comme on avoue cette semaine, c'est pas comme ça facile. Oui, il faut essayer chaque jour et jouer chaque jour pour chaque seconde qu'on peut trouver.
Et oui, on peut trouver, espérer remporter ce maillot et le conserver malgré les difficultés à venir. Mais qu'est-ce s'est-il passé du côté de Fabio Aru, lui qui avait réussi à s'emparer de ce maillot il y a 2 jours? Qu'est-ce qui lui est arrivé aujourd'hui dans ce tour décidément très animé? C'est la question qu'a posé Thomas de Saint-Léger à Dimitri Fofonov, le directeur sportif kazakh de l'équipe Astana et de Fabio Aru.
Ouais, on a bien vu que bon, on a perdu le maillot. Après, bon, je pense que c'est une journée sans. Après, on a tous une journée sans dans un grand tour. Vaut mieux que ça tombe ici que dans une étape des montagnes.
Donc vous n'êtes pas plus inquiet que ça?
Non, je ne suis pas inquiet. Non.
Voilà, il est pas inquiet, le directeur sportif d'Astana, Dimitri Fofonov, Fabio Aru, Romain Bardet et les autres qui tenteront de refaire leur retard sur Chris Froome dès demain avec une 15e étape entre les Sacs-Sévrac, l'église et le Puy-en-Velay au parcours vallonné. Merci beaucoup Eric Chorin, on suivra cette étape avec vous sur RFI, comme d'ailleurs la suite de ce Tour de France. Demain, on trouvera Thomas de Saint-Léger dans Mondial Sport. On n'a pas fini avec le cyclisme puisque on va en parler avec vous, Philippe Zigraf. Alors, il n'y avait pas de coureur béninois sur ce Tour de France, mais y a-t-il une chance d'en voir un jour? En tout cas, ça ne va pas fort pour le cyclisme béninois. Parviendra-t-il à sortir de sa léthargie? C'est en tout cas le vœu de Romuald Azoumé, le plasticien sculpteur de renommée mondiale, vient d'être élu à la tête de la fédération.
Oui, c'est un retour pour cet homme de 55 ans. Il avait déjà occupé le poste il y a une dizaine d'années. Pour quelques mois seulement, il avait claqué la porte en critiquant le manque de soutien autour de lui. Romuald Azoumé a été élu aux dépens de Lucien Guézo. Il succède à Rétis Dagba, qui était président pendant 15 ans. Alors Romuald Azoumé est dans le vélo depuis près de 30 ans. Il a notamment dirigé le plus grand club cycliste du Bénin, le fameux Zoom Zoom Vélo Club de Porto Novo. Son mandat sera de 4 ans et il a l'ambition de faire bouger les choses, de trouver des moyens, d'aller découvrir des talents dans tout le pays. On l'écoute, il est au micro de Félix Oundé Péperipé.
Moi, mes objectifs, c'est de trouver les coureurs là où ils sont, aller les dénicher là où ils sont. C'est-à-dire que rendre le vélo beaucoup plus populaire en mettant les athlètes de chaque localité en scène, c'est-à-dire en leur créant un club au départ, en leur fournissant le peu de matériel qu'on peut leur fournir au départ et que la population prenne le relais. Parce que s'ils ont un de leurs coureurs dans le jeu, ils sortiront de leur maison pour applaudir ce coureur-là. Ils soutiendront ce coureur-là. Ça sera l'objectif premier, c'est-à-dire créer un club à Nati Tengu, créer un club à Djougou, créer un club à Parakou et un à Sopunta. Et que les clubs qui sont dans le sud et qui sont déjà des clubs qui existent, soi-disant, n'ont qu'à se renforcer et n'ont qu'à se tenir prêts à affronter tous les coureurs du Bénin. Sans oublier les femmes, parce que les clubs doivent aussi avoir des clubs de filles qui doivent courir aussi. Ça, c'est mon objectif premier et je pense que c'est déjà un cahier de charge assez difficile à tenir, auquel nous devons nous atteler.
Le vélo, c'est beaucoup d'argent. Où pensez-vous trouver ces moyens?
Le vélo, c'est beaucoup d'argent, mais je peux vous dire, ça fait 28 ans que je m'occupe du vélo au Bénin et que je sais comment il faut faire. C'est-à-dire que quand on convainc les gens et on montre les gens que l'argent qui est donné va exactement là où il doit y aller, il n'y a plus de problème de trouver de l'argent. Je dis, dès que moi je suis là, nous allons faire une sélection normale à chaque fois. Nous trouverons les moyens de le faire. Comme ça, les coureurs, ils se battront entre eux pour être les meilleurs. Et nous allons essayer de participer à tous les tours auxquels on sera invité. Comme ça, ils auront du vélo en jambes.
Est-ce que vous pensez que le Bénin, désormais, s'inscrira dans le registre des meilleurs coureurs qui prendront part à son tour?
Nous l'avons déjà fait. Vous vous rappelez que j'ai été président de la fédération pendant 4 mois. Et ils ont tout fait pour me dégommer. Et pendant ces 4 mois-là, il y avait un coureur qu'on appelle Nyansounou Dona, qui a même gagné le maillot de l'Umoa sur le tour du Faso. Je ne vais pas vous raconter ce qui lui est arrivé, parce que c'est absolument honteux. Mais c'est pour vous dire que si moi je suis là, nous n'allons pas participer pour rien. Nous allons participer avec une forte équipe de gamins motivés et entraînés.
Prochaine sortie pour les cyclistes béninois, les Jeux de la Francophonie à Abidjan. Ça commence dans quelques jours et le cyclisme y sera sport de démonstration.
Les Jeux de la Francophonie qui auront lieu à partir de vendredi prochain et jusqu'au 30 juillet dans la capitale ivoirienne. Une compétition largement couverte par RFI.
Modèle sport sur RFI.
Allez, on passe au football avec un week-end encore chargé en Afrique et consacré aux éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations réservé aux joueurs qui évoluent dans les clubs du continent. En tout, 15 rencontres sont prévues ce week-end et déjà des premiers résultats, Philippe.
Oui, aujourd'hui dans la zone ouest A, le premier tour aller avec 2 matchs nuls, Gambie-Mali 0-0, Sierra Leone-Sénégal 1 partout, le Sénégal qui a joué à 10 pendant 70 minutes après l'expulsion du défenseur Abdoulaye Diène et puis la victoire de la Guinée à l'extérieur en Guinée-Bissau 3-1. Le deuxième tour aller dans la zone centre et est, 1 partout Tanzanie et Rwanda. L'Éthiopie s'impose 5-1 à Djibouti et puis Burundi-Soudan aura lieu samedi prochain puisqu'on laisse au Soudan le temps de se préparer après que la FIFA a levé la suspension du pays du Soudan, donc c'était jeudi. Et puis le deuxième tour aller dans la zone sud, les Comores ont battu le Lesotho 2-0 et la victoire en déplacement de l'Afrique du Sud au Botswana 2-0 également.
Voilà pour les résultats du jour. 6 matchs auront lieu demain avec notamment un derby ouest-africain.
Oui, dans la zone ouest B pour le compte du premier tour aller à Lomé, le Togo accueille son voisin du Bénin, les Béninois qui ont fait une grosse préparation et dont l'entraîneur Oumar Tchomogo est le même que celui qui dirige les écureuils, c'est-à-dire l'équipe A. Oumar Tchomogo au micro de Félix Oundé Pépéripé.
On a eu à faire un travail depuis un moment, on a anticipé sur la préparation, on a commencé à faire une sélection sur certains clubs qui n'avaient pas arrêté de s'entraîner et voilà encore une fois le championnat qui commence. C'est une bonne chose pour moi. On a fait une tournée depuis pratiquement 3 mois qu'on a commencé cette tournée. On a été au Burkina, Ghana, Côte d'Ivoire et on a terminé par le Niger. Je pense que le bilan est positif. Pour l'instant, j'ai tout le monde au complet. Il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de malades. C'est un groupe sain, jeune, qui a beaucoup de qualités, qui l'ont montré dans les matchs amicaux et je pense qu'ils vont encore le démontrer dimanche.
Alors en face, le Togo s'est bien préparé également, même s'il a moins joué de matchs que son adversaire du jour. Et le derby sera une première pour le nouvel entraîneur de l'équipe locale, l'équipe togolaise, l'ancien professionnel Jean-Paul Abalo-Dossé.
On a fait 2 matchs amicaux avant, qui sont soldés par 2 défaites, malgré une bonne prestation de leur part. Mais en football, ça ne suffit pas. Surtout que sur ce match, c'est un aller-retour, il faut qu'il y ait un qui tombe. Et je pense qu'ils sont prêts pour aborder ce match.
Qu'est-ce que vous leur avez dit particulièrement?
Surtout de ne pas se crisper, parce que quand on a joué au Burkina, j'ai vu qu'ils étaient vraiment libérés, ils jouaient comme il fallait, mais le dernier match, je les ai trouvés un peu tendus et j'espère qu'ils seront vraiment bien dans leur tête pour pouvoir éviter la crispation.
Jean-Paul Abalo, micro de Comlon et Clou. Togo Bénin, coup d'envoi à 15h TU. Les autres matchs de ce dimanche, Philippe.
Dans la zone ouest A, le Libéria accueillera la Mauritanie. Et puis, deuxième tour aller dans la zone sud. 4 rencontres. Madagascar, Mozambique, Île Maurice contre Angola, Namibie, Zimbabwe et le Swaziland contre la Zambie.
Eh bien, merci Philippe. Les résultats de ces matchs, ce sera donc demain.
Modèle Sport sur RFI.
On va parler à présent d'athlétisme avec la saison qui bat son plein à 3 semaines maintenant du début des mondiaux qui auront lieu à Londres. Certains tentent encore de réaliser les minima pour se qualifier, notamment plusieurs tricolores qui étaient pour la plupart à Marseille pour les championnats de France. La deuxième journée vient de se terminer sous les yeux de Christophe Jousset. Christophe, vous avez vu notamment un autre Christophe, le maître, récupérer son titre de champion de France du 100 mètres.
Oui, Christophe Lemaître, champion de France du 100 mètres en l'absence de Jimmy Vico, qui est tout de même présent ici au Stade de l'Or, mais qui est en convalescence. Lemaître vainqueur dans le chrono modeste de 10 secondes 34, une performance qu'explique le vent de face assez fort dans la ligne droite. 10-34, c'est insuffisant pour se qualifier pour les mondiaux de Londres sur cette distance, mais le grand blond tentera de faire les minima, à savoir 10 secondes 10, une dernière fois à Monaco le 21 juillet. En attendant, il se contente de ce titre national qu'il n'avait plus gagné depuis 3 ans.
Bah, c'est toujours quelque chose d'important pour moi d'être champion de France. Je suis ravi de l'avoir. Et avec le vent de face et mon retard de ma préparation à cause d'une blessure, c'était un peu compliqué. Donc le vent m'a pas aidé à essayer d'aller chercher. Donc on va dire que c'est un contrat à moitié rempli. Maintenant on va essayer de les faire une dernière fois à Monaco. L'enchaînement va me permettre de me sentir, de retrouver la compétition, de reprendre un peu de forme petit à petit, de monter en puissance. Puis avec, je pense, une grosse concurrence et de meilleures conditions, bien sûr, bah, ça peut permettre d'aller chercher. Mais non, mais de toute façon, j'ai pas bien le choix, on va dire.
Le maître que l'on retrouve sur 200 mètres demain dimanche, il est là pour réussir un doublé en or avec moins de pression sur 200 puisqu'il est déjà qualifié pour les mondiaux sur le demi-tour de piste. Chez les filles, c'est Carole Zahi, la valeur montante du sprint tricolore qui s'impose. Championne de France, donc en 11 secondes 13, nouveau record personnel pour cette athlète née à Bingerville en Côte d'Ivoire. C'est l'une des satisfaction de cette journée dans des championnats globalement trop calmes, voire mollassons jusqu'à présent. Le stade de l'Or est loin d'avoir fait le plein et le vent fort, on l'a dit, nuit gravement aux performances. Kevin Mayer en a fait l'expérience aujourd'hui. Le vice-champion olympique du décathlon est sorti déçu de l'épreuve de saut à la perche, d'autant que les poteaux qui soutiennent la barre n'étaient pas droits, ce qui est assez étonnant s'agissant de championnat de France.
Les poteaux étaient un peu cassés, bon, ça c'était pas grave, hein, j'aurais pu sauter quand même, mais bon, les circonstances ont fait que je me suis retrouvé trop près au premier et que je me suis brûlé les mains en glissant sur ma perche. Et ensuite, j'avais plus assez de poigne, j'avais trop mal pour tenir ma perche. Mais j'ai réussi à faire 5-20, c'était déjà bien. À ce moment, je saute très haut et c'est ça qui est très frustrant. Je m'en fous de me faire mal, mais quand dès le premier saut, on sait qu'on va pas pouvoir sauter comme on veut, c'est très frustrant. Et ouais, Marseille, on parle souvent du Mistral, bah, purée, je comprends pas ce vent parce qu'il va dans toutes les directions et des fois à 2 mètres d'intervalle, il est complètement opposé. Donc c'est comme ça, c'est le jeu du sport, donc j'ai pas réussi à assumer ce vent et... Bon, je pense qu'à Londres, il y aura quand même moins de vent. C'est une belle arène.
Kevin Mayer, c'était sa dernière sortie avant les mondiaux de Londres. On le retrouve en août pour une possible médaille d'or. Quelques athlètes africains licenciés dans des clubs français ont participé aujourd'hui. Et deux béninoises ont même fait mieux puisqu'elles ont gagné dans leur discipline. Noélie Yarigo a gagné le 800 mètres. Une course qu'elle a menée de bout en bout sans s'occuper de la concurrence. Et qu'elle boucle en 2 minutes 2 secondes et 91 centièmes. En tant que béninoise, Noélie Yarigo ne peut pas porter le titre de championne de France, mais c'est une victoire qui lui fait du bien à 3 semaines des mondiaux de Londres.
Cette course, je l'ai préparée il y a très longtemps. Je me suis dit cette année, il fallait gagner le championnat de France outdoor parce que je n'ai jamais gagné, quelles que soient les filles qu'il y allait avoir. J'ai dit, bon, ça serait quand même bien que je fasse une course aujourd'hui avant les Jeux de la Francophonie à Abidjan.
C'est ça le grand objectif ?
Mon objectif, c'est les Jeux de la Francophonie et le championnat du monde. Essayer de passer le maximum de tout au championnat du monde, surtout.
Il y a beaucoup d'athlètes qui préparent les championnats du monde et qui font l'impasse sur les Jeux de la Francophonie. Pour vous, c'est naturel de passer par Abidjan pour aller à Londres ?
Oui, pour moi, c'est naturel. J'ai envie d'aller défendre les couleurs de mon pays. C'est très important pour moi. Il faut d'ailleurs que je monte sur le podium là-bas parce que c'est nécessaire pour moi.
L'autre béninoise qui s'impose aujourd'hui, c'est Odile Awanwanu, vainqueur de l'heptathlon avec 5986 points. Déçue forcément puisqu'elle visait les 6200 points qui l'auraient envoyé aux mondiaux à Londres. Des contre-performances au poids et au javelot l'en ont empêché. Elle va elle aussi prendre maintenant la direction d'Abidjan pour aller chercher une ou deux médailles pour son pays. En tout cas, elle l'espère. Et ces championnats de France se poursuivent et se terminent ce dimanche. On y attend notamment le jeune papa Renaud Lavilloni, le détenteur du record du monde du saut à la perche. Il traverse une saison compliquée. Il espère aller plus haut demain, plus haut que les 5,87 m de Lausanne, qui sont pour l'instant sa meilleure performance de l'année. Mais ça ne sera possible que si le vent se calme ici à Marseille.
Eh bien, merci Christophe Jousset, à demain pour la dernière journée de ces championnats de France. À noter demain également la réunion de Rabat au Maroc, la 10e étape de la Ligue de Diamant avec un joli plateau. Voilà, Mondial Sport, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Philippe Zigraf, merci aussi à Fabrice Viollet qui m'a aidé à préparer cette émission. Nous, on se retrouve demain, l'heure n'a pas changé, 21h10, temps universel, plein de choses au programme encore. D'ici là, eh bien, je vous souhaite une très bonne soirée à vous sur RFI.